9h, dans le couloir du bureau de Pargepiter.
Mais Charline, elle fait décoller un hélicoptère ou c'est comment là?
Peut-être un regard Top Gun rapport à la sortie du 2 à Cannes.
Mais Top Gun, c'est des avions bananes.
Salut les amis!
Voilà, salut Charline!
Attendez, j'éteins mon aspirateur!
Ah ok, c'est donc un aspirateur. Bah, il avait l'air de beaucoup souffrir. Hein.
Ah, c'est le ménage du printemps, ça. Je vous annonce que j'ai pas l'intention de m'y coller seule, d'ailleurs.
Ah bah voilà. Oui, ok, mais pas là, parce que moi j'ai plein de trucs à faire.
Non, écoutez, oui. Ce bureau, on le partage, ok? Alors ouais. Pour les tâches ménagères, c'est pareil, on partage.
Et pourquoi aujourd'hui, là?
Ah bah, c'est le roman de notre invité qui m'a donné l'idée. Voilà, c'est l'histoire d'une coloc. Je me suis rendu compte qu'on en était une aussi dans le
Ah fond. Oui, d'accord. Ouais. Enfin, si le bureau c'est une colocation, alors il faut qu'on décide ensemble le jour où c'est le ménage.
Ah bah oui, voilà. Alors on vote. Chacun propose un jour.
Allez,
moi je propose qu'on attende la Saint-Gérard.
Alors attends, moi je check mon agenda. Alors je propose le mardi, le mercredi ou le vendredi. Comme vous voulez, feel free, vraiment.
Les jours où Alex est co-animateur. Bravo Juju,
bravo. Ouais,
mais
bah
ça
ouais.
Va, je blague. On va te la faire ta poussière.
Il est où le chiffon? Ah non, je vais pas pouvoir en fait.
Quoi, qu'est-ce qui se passe? T'es allergique à la poussière, c'est
Je suis allergique aux produits pour dépoussiérer là.
Ouais, c'est ça, oh, ouais, allez.
Bon, ok, tu sais quoi, pas de problème. Je m'occupe de la poussière et toi? Tu passes l'aspi, tiens!
Ah non, mais non, ça va pas le faire, là! Non, finalement, mon allergie, c'est rien! Tiens, reprends l'aspi!
Pardon, j'entends rien! C'est bien, tu passes bien l'aspi, en tout cas!
Non, mais j'ai envie de devenir sourd, là! Juliette, t'as pas des boules de pièces à me passer?
Je t'entends pas, Guillaume! Mais tu t'en sors très bien, bravo!
Mais parfois, la vie de coloc, c'est un peu usant! Hein.
Ah, tu vois, finalement, hein, tu trouves ça grisant?
Ah, j'ai pas dit grisant, j'ai dit que c'était un petit peu!
Ouais. Guillaume, on reste concentré, là! On aspire!
On est bien!
Bonjour la France Inter! Bienvenue chez les petits tailleurs de pierre de la rigolade, dont voici la citation du jour. Les films sont comme des trains dans la nuit et Cannes est la capitale du rail.
J'ai l'impression qu'il y a un double sens.
Pas du tout le sommaire. Les urgences du CHU de Bordeaux ont fonctionné en mode dégradé cette semaine. Ce sont des bénévoles qui ont accueilli les patients par manque de personnel et à cause du nombre de burn-out aussi. Donc à part cette histoire de bénévolat, rien de neuf sous les tubes au néon des urgences.
Ça fait 4 heures que je suis là.
Ah bah vous venez d'arriver. C'est du monde médical.
Les magazines féminins vivent grâce aux espaces publicitaires vendus à l'industrie de la mode et aux cosmétiques, qui nous proposent une image de la femme archétypale. Mais les femmes renâclent de plus en plus à gober ce système. Alors l'industrie s'adapte, ou filoute, alors qu'en réalité il n'y a qu'une règle et elle n'a pas changé.
Le couturier n'a pas à tenir compte des formes du corps de la femme. C'est au corps de la femme de s'abaisser à l'art du couturier.
Au Japon, les auteurs qui remettent toujours au lendemain l'écriture de leurs manuscrits ont désormais un lieu dédié et un surveillant pour régler leurs problèmes de procrastination.
Mais qu'est-ce que je lui ai dit?
Vous avez dit plus tard. Plus tard, ça rime avec salopard, ça rime avec cafard, ça rime avec cauchemar.
Et à mes côtés aujourd'hui, Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour Charline, et en l'honneur de notre invité, nous avons recruté une équipe de personnages de romans et ils vont tous ensemble partager ce studio. Il n'y a pas de récit du Moyen-Âge sans le crieur public, celui qui crie « Oyez, oyez, braves gens, damoiselles et damoiseaux ». Ce chroniqueur en a signé l'adaptation moderne avec son...
Eh les gars, c'est incroyable.
Voici Djamil Lechlag.
Bonjour à tous, bonjour.
Bonjour Djamil, de quoi vous allez nous parler?
Du burkini de PPDA.
Voilà, dans l'actualité.
J'espère qu'il y aura des photos.
Oui.
Dès notre première rencontre, lui m'a fait penser à un personnage fameux de La Recherche du Temps Perdu, le flamboyant baron de Charlus. Alors, part sur le côté bête de mode, hein, on a des yeux, merci bien. Enfin... Lui, il s'habille comme ça vient et ça vient peu. Mais pour le surnom du baron de Charlus, Taquin le Superbe.
Ah, c'est beau ça. Hein.
Voici Guillaume Meurice.
Eh ben, bonjour Juliette, bonjour tout le monde. Moi, je vais vous parler de greenwashing aujourd'hui. Je suis allé au grand colloque Change Now sur le changement climatique avec plein de marques comme Orange, la Société Générale, Renault, qui s'achètent une bonne conscience en continuant à polluer.
Donc on est sur un compromis gagnant-gagnant.
Oh, c'est ça. Sauf pour la planète, bien évidemment. Quoi.
Et enfin, il est notre petit prince à nous. Un petit prince qui, merci mon Dieu, n'a pas envie toutes les 10 minutes qu'on lui dessine un mouton. Non, un petit prince qui nous rappelle régulièrement que les enfants doivent être indulgents avec les grandes personnes. Bonjour Léo Carmal.
Bonjour Juliette, bonjour à tous. Il n'y aura pas d'enfants aujourd'hui. Je vais vous parler...
Je vais vous parler de dystopie aujourd'hui. Un monde où on peut totalement séparer sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
Ouh.
C'est presque une utopie. Mais...
Ah bon, ouais. Ça, c'est vraiment une utopie, je vous confirme. Voici celle qui va remettre le livre au milieu du salon. Vous êtes
Virginie Grimaldi.
Ah, oui.
France Inter. Charline Vaninacker. Juliette Arnaud.
Par Jupiter.
Bienvenue Virginie Grimaldi.
Merci.
Merci d'être avec nous, c'est un plaisir. Vous êtes romancière avec un statut très particulier, permettez-moi de le dire. Ce week-end, au salon du livre de Limoges, on salue Livre à Limoges. C'est ça, oui, lire à Limoges.
Très frais.
Il faisait, oui, effectivement. La file interminable de lecteurs, elle patientait devant votre table à vous.
Oui, il y a eu un petit peu de monde.
Il y avait Douglas Kennedy, pourtant parrain du salon. Il y avait moins de monde pour Douglas Kennedy que pour vous. L'an dernier, vous étiez la deuxième romancière à vendre le plus de livres en France, selon Le Figaro, juste derrière Guillaume Musso. L'idée n'étant pas de vous définir par un classement, mais par votre talent, chère Virginie, j'ai confié à Juliette le soin de lire attentivement votre 8e roman, intitulé « Il nous restera ça » et publié chez Fayard.
Alors avant d'arriver à « Il nous restera ça », en lisant la documentation sur vous, on comprend que vous auriez aimé faire comme Elena Ferrante, c'est-à-dire vivons heureuses, vivons cachées, et puis vous êtes là, avec dans un studio gavé de caméras. Ça va ?
Ça va, à peu près.
Ça va bien se passer, madame.
Oui, merci. Vous êtes l'écrivaine française, comme le disait Charline, qui vend le plus de livres, et c'est une chouette nouvelle pour vous. La chouette nouvelle pour nous, c'est qu'après lecture de Il nous restera ça, je me dis que les lecteurs et les lectrices françaises ont du goût, et ça m'arrive pas tous les jours de le penser. C'est un roman qui annonce la couleur, dès le départ, avec une citation de Léonard Cohen en exergue. Citation célèbre, il y a une faille en toute chose et c'est par là qu'entre la lumière. Trois personnages, Théo la vingtaine, Iris la trentaine, Jeanne plus âgée, on ne donnera pas son nom. On sait dès le début que tous les trois, ils ont une fêlure. Bon, une bonne grosse fêlure, hein. On est plus au niveau de la faille de San Andrea. On aura un suspense tout le long du livre pour savoir de quelle faille précisément il s'agit. Et ces trois-là, qui ne se connaissent pas, ils trouvent le moyen de se mettre à vivre ensemble. Sur le papier, c'est une idée désastreuse, hein. L'estropié n'est pas forcément la meilleure personne pour venir en aide aux paralytiques. Est-ce que c'était là, ça, l'enjeu du roman ?
L'enjeu du roman, c'était de faire se rencontrer trois solitudes et trois estropiés, en effet, trois êtres abîmés par la vie, et de montrer que on peut se réparer d'à peu près tout, parce que j'en suis persuadée, et surtout qu'on peut s'en réparer avec les autres.
Qu'on ne peut même s'en réparer qu'avec les autres ?
Non, ça dépend. Chacun a sa propre voie de guérison. J'ai l'impression d'être un gourou.
C'est un peu ça,
chacun
a
son propre chemin. Non, parce qu'il y a des personnes qui aiment vraiment être seules et qui ont besoin de solitude pour se ressourcer, se réparer, et d'autres qui ont besoin des autres. En tout cas, ce livre-là parle de s'ouvrir aux autres et de comprendre l'autre, parce que je crois qu'on le fait pas beaucoup ces derniers temps.
Oui,
c'est compliqué.
Alors, ils ont des failles déchirantes tous les trois, mais c'est un roman qui est drôle. Délibérément drôle, aussi drôle que votre Insta. Pendant le confinement, vos posts, cher papier et mamie, m'ont fait hurler de rire. Avez-vous l'humour comme mécanisme de défense, comme, et je vais citer la spécialiste, le docteur Vanhoenacker, comme instrument de renversement des dominations ? Parce que moi, j'ai la sensation que vous êtes totalement consciente de ça, qu'il y a ça chez vous, mais depuis quand ?
Ah, mais depuis toujours, c'est ma carapace, je crois, et c'est oui un mode de défense, c'est une protection, et parce que j'ai une part très sombre, très lucide sur notre finitude, c'est gay, et donc je
la vôtre et celle des autres.
Oui, 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 enfin surtout la mienne.
Égoïste. Oh, mais cela ne pense pas sa gueule.
Non, non.
Ah, surtout ma propre mort.
Dit Virginie Grimaldi, mère de famille.
Non, en effet.
Non, mais nous, c'était... on va pas mourir, de toute façon. C'est pas prévu, donc non.
Non, c'était de l'humour. C'est surtout celle de mes proches qui me terrorise. Et c'est vrai que je compense avec de l'humour. Je fais souvent de l'humour, enfin j'essaie, et j'en mets forcément dans les livres, et j'aime faire rire, mais ça depuis toujours, au grand désespoir de ma mère qui était convoquée souvent au collège. Ouais.
Ah, c'est vrai ?
Ouais, elle était convoquée chez le proviseur.
Mais qu'est-ce que vous faisiez ?
Oh.
Allez, personne n'écoute.
Vraiment le savoir.
Personne n'écoute.
Oh, j'ai fait des petites, pas grand chose. Je me suis coupé la frange en classe pour amuser.
Sérieusement ?
J'ai fait ce genre de choses, oui.
Ah, ouais. Devant les gens ?
Oui, pour amuser les copains. Ils m'encourageaient, et puis moi j'y allais.
Vous avez une autre grâce particulière, en tout cas dans ce roman-ci, un truc qui m'a assez bouleversée, c'est que vous parlez de douleurs qui ne sont clairement pas les vôtres. Celle, par exemple, de ne pas avoir eu un enfant, de ne pas avoir réussi à en avoir un. Celle de ne pas avoir de famille. Grâce à quoi vous y arrivez ? Parce que vous avez des mots très justes, et là je sais de quoi je parle. Et c'est l'empathie, c'est le goût des autres, c'est l'hypersensibilité, c'est quoi ?
Oui, c'est un peu tout ça. J'ai une surempathie qui est assez encombrante et une sensibilité qui l'est tout autant. Et je crois que ça me permet de visualiser et de ressentir des choses même quand je les ai pas vécues. Mais après, ça s'approche souvent quand même de choses que j'ai vécues. Parce que l'absence, par exemple, je la connais sous une autre forme, mais l'absence, le deuil, le manque, ce sont des choses que je connais. Et donc, je sais en parler parce que je crois que c'est assez universel ce qu'on ressent.
Une question purement formelle.
Sur la frange ?
Elle était en biais.
En escalier.
Quand même,
en quinconce.
C'est mes préférés, franchement. Ouais. Le roman dans le roman, les personnages de Théo et d'Iris sont écrits à la première personne du singulier. Oui. Et quand vous arrivez au personnage de Jeanne, tout à coup, on passe à la troisième personne du singulier. Pourquoi ?
Je n'ai aucune explication.
Oh non, non.
Non, allez. Mais vraiment, ça s'est imposé comme ça. C'est venu comme ça. Et c'est après coup que je m'en suis rendu compte. Et parce qu'on m'a posé la question, mais je n'ai pas de réponse.
C'est quand vous êtes relue.
Oui, c'est pendant l'écriture, je me suis dit, elle est à la troisième personne. Je sais pas, peut-être que je me sentais plus extérieure, peut-être que ça me permettait... parce que justement, Jeanne, c'est un deuil qu'elle vit. Et,
la trouille peut-être.
Oui, pour pas me porter l'œil. C'est pour ça.
Virginie Grimaldi, votre roman s'intitule « Il nous restera ça », paru aux éditions Fayard. Vive la République, vive la frange.
Attends, qu'est-ce qu'on fait pour le refrain ? On dit quoi ? Il y en a plein le cul des pauvres ? Ou on dit il y en a marre des pauvres ? Ouais, il y en a plein le cul des pauvres, moi je trouve que c'est mieux. Mais ouais, il y en a marre des pauvres, c'est peut-être plus joli. Ouais, c'est peut-être plus commercial, quoi. Je sais pas, on demande aux producteurs ou... Non, on leur merde ? Ok, bon ben on... Non, ok, on verra pendant, laisse tomber, envoie, on va voir. Jeanne, merde. Y'en a marre des pauvres. Les pauvres, ils font aucun effort pour devenir riches. Y'en a marre des pauvres. Et quand ils jouent au loto, ils réfléchissent même pas à ce qu'ils cochent. Y'en a marre des pauvres. Et puis c'est sûrement la faute des pauvres s'il y a de la misère. Marre des pauvres, marre des pauvres. Y'en a nanana. Y'en a marre des pauvres. Oh oui, marre des pauvres, marre des pauvres. Y'en a nanana. Y'en a marre des pauvres. Y'en a marre. Les pauvres quand ils travaillent, ils enrichissent les riches. Du coup faut pas qu'ils s'étonnent, bah s'ils sont toujours aussi pauvres. Marre des pauvres, marre des pauvres. Ils font chier, ils sont maigres. Marre des pauvres. Ils font chier, ils mangent encore plus mal que nous. Hey. Et tu peux taper dans tes mains. Ouais, en écoutant ton disque. Allez, vas-y, fais-le, ça va faire super. Plein, y'en a trop, y'en a plein. Plein, y'en a trop, y'en a plein. Plein, y'en a trop, y'en a plein. Plein, y'en a trop plein le cul. Y'en a marre des pauvres. Et les pauvres, arrêtez de vous plaindre, vous gâchez le bonheur des riches. Y'en a marre des pauvres. Heureusement les très très riches, tout le monde peut crever, ils s'en foutent. Y'en a marre des pauvres. Et puis c'est facile de se plaindre quand on sait qu'on est la majorité. Marre des pauvres.
Non, parce que tu sais, ça, en fait j'ai réfléchi à un truc là. C'est tu vois, entre donner 10 balles, 10 francs tu vois, à un seul pauvre, ou tu donnes 1 franc à 10 pauvres, Bah moi, je préfère donner un franc à 10 pauvres, tu vois, parce que ça fait plus de pauvres qui t'aiment bien, tu vois. Puis je vais te dire, les pauvres, vaut mieux les avoir dans la poche, parce que si tu les as pas dans la poche, bah un jour, ils te les font, les poches. Tu vois ? Ouais.
Nous venons d'entendre Didier Super dans l'opus numéro 36 en fa majeur intitulé « Y en a marre des pauvres ». Bienvenue sur France Inter à l'écoute de Par Jupiter avec Virginie Grimaldi, notre invitée Juliette pour l'entourer.
Oh bah que des bourgeois. Non, de nobles seigneurs, si. Jamil Le Schlag, Léo Carman et ce manant de Guillaume Meurice.
Il y a eu une dispute, il y a eu deux condamnations de part et d'autre, et je crois qu'on peut respecter ça. C'est un honnête homme, je ne crois pas capable de violence sur les femmes.
Le journal de presque 17h17.
Putain de merde, t'es un putain de génie. C'est la plus extraordinaire réponse que j'ai jamais entendue. Tu dois avoir un putain de merde de QI d'au moins 160.
Et on commence par les titres.
Dans ce journal, on parlera de Jean Castex.
Oui, j'ai pris du temps pour lire son parcours, c'est un honnête homme, c'est quelqu'un qui est beau.
Qu'est-ce que vous faites, Guillaume, là ?
Pardon, je travaille mon imitation de Stanislas Guérini.
Ah oui, d'accord, allez. Dans ce journal, on parlera aussi de George W. Bush.
Un homme de conviction, c'est un homme droit qui ne fait pas ses responsabilités.
Guillaume, oui. Vous la travaillez chez vous, l'imitation.
Oui, pardon,
d'accord,
pardon.
D'accord, merci.
D'accord,
pardon. Et enfin, on parlera de Gérald Darmanin.
Un homme formidable, droit, intègre, féministe. Non, là, j'arrive pas. Bon, tant pis. Et on commence par la politique.
Oui, les législatives, lors du débat organisé sur France 3 Rhône-Alpes, le candidat RN Gérard Vollory s'est défendu d'être un extrémiste, mais il s'est défendu un petit peu à sa manière.
On peut dire autant qu'on veut qu'on n'est pas extrême à partir du moment où on appartient à un parti extrémiste. Ça restera un extrémiste.
Un million. Photo de ma femme, merci.
Voilà, le gars a sorti donc une photo de sa femme qui est noire. Voilà, il a montré une photo de sa femme. C'est une sorte de contre-Kems, en fait. Hein, c'est-à-dire qu'il a même prévu le coup, il a dit, bon, au cas où, paf, voilà.
Et Nadine Morano a immédiatement porté plainte pour plagiat.
Oui, enchaînons.
Politique toujours, Jérôme Perra, ancien candidat LREM condamné pour violence conjugale, a reconnu, je cite, un manque d'appréciation dans sa candidature.
Oui, d'ailleurs, on ne dit plus violence conjugale, mais manque d'appréciation sur la distance entre ma main et le visage de ma femme.
En effet. La socialiste Carole Delga refusera le poste de ministre si on lui propose et elle a déclaré, je cite, « Je ne suis pas à vendre ».
Contrairement à Ségolène Royal qui, contre un ticket restaurant et des Gucci, accepterait vraiment n'importe quel poste.
Guillaume, là, vous êtes misogyne ?
Alors, pas du tout. D'ailleurs, regardez, je possède une femme. Je possède une femme qui est chez moi.
Guillaume, ça, dans ce que vous venez de montrer là dans le studio, c'est une photo de la Fashion Week.
Et alors, vous êtes mannequinophobe peut-être ?
Pas du tout. J'ai un mannequin chez moi. J'ai un joli mannequin chez moi.
Oui, d'accord. Voilà. Bon, voilà. Allez, enchaînons parce que c'est bien n'importe quoi. C'est ça.
Le député de droite, Damien Abad. Mon père Juliette.
On est complètement con,
mais on est payé pour être très 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 con.
Avec l'argent du contribuable français. Pardon, contribuable.
C'est vrai que si on supprime la redevance, on sera moins con. Peut-être, on ne sait pas.
Sûr.
Le député de droite, Damien Abad, promet de faire un choix entre les Républicains et la majorité avant ce vendredi matin.
Oh là là ! Oh non ! Mais je ne tiendrai jamais jusque-là ! Qu'est-ce qu'il va choisir ?
Mais Guillaume, attendez, ça vous excite vraiment ?
Je voulais vous montrer que j'ai fait des progrès quand même, en acting.
C'est vrai. D'après Le Point, Elisabeth Borne serait tentée de réduire la vitesse à 110 km/h sur les autoroutes.
Alors ça, c'est sympa pour CNews qui vient de trouver un sujet de débat pour les trois prochains mois. Borne, lac mer verte, Borne, la Pol Pot des autoroutes, 110 km/h sur les routes. Hier, le burkini dans les piscines. Aujourd'hui, la France s'effondre. 110 km/h.
Oui, c'est bon.
Je n'avais pas l'autre. Hein.
Elisabeth Borne fera donc son premier déplacement au Mureaux.
Ah, bah, je suis déçu.
Ah bon, pourquoi ?
Mais ça fait que 50 bornes. J'adore l'humour. Vous avez compris ? Borne, c'est le nom
c'est
en
nul,
fait de la personne.
C'est nul.
Oh, vous êtes rirophobe, Charline.
Mais pas du tout.
Ah non.
Je suis amie que j'en
Oh non, c'est nul.
Sa photo. Tu vois, j'ai pris sa photo.
C'est scandaleux. C'est scandaleux. Enchaînons parce qu'il y a... Bon.
Oui. Non. International, lors d'un discours à Dallas, George Bush a évoqué la guerre.
La décision d'un homme de lancer une invasion totalement injustifié et brutal de l'Irak. Je veux dire de l'Ukraine.
Oh, le petit lapsus.
Petit allô, Freud. Oui, il y a un cas intéressant, là, je pense.
Média présent hier sur notre antenne, le présentateur du journal de 18h, Sébastien Logénie, on l'embrasse fort, a fait un sujet sur la journée de lutte contre l'homophobie.
Idrissa Gueye, l'international sénégalais du club de foot parisien, a refusé samedi de jouer le match face à Montpellier parce qu'il ne voulait pas porter un maillot au flocage arc-en-ciel en signe de soutien à la journée de lutte contre l'homophobie.
Voilà, l'homophobie, Sébastien, le génie, hein, comme on l'appelle désormais. Et puisqu'on parle d'homophobie...
Attention Guillaume, vous allez être bitophobe.
Alors, ah, pas du tout. J'ai dans mon téléphone des tas de photos que je peux vous montrer. Bon, ben continuons, mais sinon j'ai les photos. Hein.
Allez, aux États-Unis, un chauffeur de VTC a refusé de prendre un couple en voiture car ils ont tenu des propos racistes.
Ah oui, après cet événement, Éric Zemmour et sa compagne auraient déclaré « Ça va, c'est pas grave, ça nous a fait du bien de marcher. »
Et enfin, ce samedi, dans un club...
Oui.
Vous voyez, un club.
On fait des guillemets avec nos doigts.
Voilà, c'est un club. En Suisse, oui. Aura lieu un concours de fellation.
Eh oui. Oui, Emmanuel Valls aurait déjà réservé ses billets. À mon avis, il est favori d'ailleurs.
Et là, on est bien informés. Et on peut repartir avec Virginie Grimaldi sur ce premier thème. Le CHU de Bordeaux a dû faire appel à des bénévoles pour accueillir les patients aux urgences. Deux bénévoles de la protection civile et un agent de sûreté pallient le manque de personnel et celui qui est en burn-out. Aux urgences, on vient chercher de l'aide, on peut aussi en donner. C'est l'hôpital version dégradée. Alors à votre bon cœur, hein, si vous êtes charcutier, en chirurgie ça peut aider. Et surtout, bonne chance.
Et mes analyses
On est avec ce mot-là à la bouche, vous.
Oui, mais enfin, je suis...
Analyse. Vous voyez d'autres mots, vous savez, beaucoup plus jolis. Vélocipède, montagnard, pubis, acacia.
Oui, non, mais enfin, je suis venu pour ça.
Vos analyses. Ok. Monsieur
Boulard, Luc Boulard.
Ok.
J'ai compris, vous me cachez quelque chose.
Ah oui, bien sûr. Tournez-vous, je vais cacher mon soulier.
C'est grave, c'est ça.
Et vous avez raison, en ce moment, je me sens pas très bien. Ça doit être... Oh, mon cœur.
Ça va, docteur, vous n'êtes pas mort, je vois vos yeux qui bougent.
Ce que je vais vous dire doit rester entre nous.
Très bien.
Voilà, je ne suis pas docteur. Je viens de la planète Vulvor. Et je vais m'autodétruire dans 15 secondes. Alors, il faut mieux partir si vous voulez pas être atomisé.
Un sketch de Cadmerade, bien sûr. Alors, plusieurs CHU ont déjà été contraints de fermer leur service d'urgence, c'est pas du tout nouveau. Et le CHU de Bordeaux a trouvé la parade, on va dire, de 17h à 22h. Deux bénévoles accueillent les patients. Et à partir de 22h, le système est encore plus dégradé. Les portes des urgences adultes sont fermées. Et ils trouvent face à eux un interphone qui les met en relation avec le médecin régulateur du 15. Donc, ils se déplacent pour appeler le 15, grosso modo. Virginie Grimaldi, vous êtes bordelaise. Vous pourriez vous proposer comme bénévole, peut-être ?
Tout à fait. Je suis d'ailleurs docteur...
à vos heures.
Tout à fait.
C'est le sujet que vous avez souhaité apporter.
Oui,
dans cette émission.
Oui.
Pourquoi ?
Mais alors, c'est parce que la santé en France n'est pas à son apogée, hein, l'état du système de santé. Et je m'étonne que pendant la campagne, on n'en ait pas fait un sujet principal, un des sujets principaux en tout cas, et qu'on ait parlé plus d'immigration. Enfin voilà, ça a été complètement, on a parlé que de ça.
C'est pas comme s'il y avait une Covid avant. Ouais.
C'est ça, c'est pas comme si on sortait d'une crise de 2 ans.
Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Arabes hein, quand même.
Ouais.
En France,
hein. Mais oui, mais c'est un problème. Ça, mais on pourrait leur fermer les portes à eux, oui, voilà. aux urgences.
Alors, Jamil, si vous voulez sortir, et puis vous reviendrez quand vous ferez votre chronique.
Non, mais je trouve ça terrible.
Appelez le 15 pour faire la chronique.
Je trouve ça terrible, je trouve ça effrayant. Et ça va arriver aussi apparemment aux urgences pédiatriques. Parce que c'est le même problème. Je lisais qu'il y a 40% des médecins et du personnel soignant qui est soit déjà parti ou qui est en passe de partir à cause d'un burn-out lié aux heures. Ils font des gardes de 12 à 24 heures. Enfin, c'est terrible. Et que ça n'ait pas l'air d'inquiéter tous ceux qui se sont présentés à l'élection. Ça m'étonne.
C'est un problème tellement récurrent qu'on finit par s'habituer.
Ouais, mais là, ça devient vraiment très inquiétant.
En tant que bordelaise, vous avez déjà fréquenté le CHU. On peut peut-être saluer le personnel du...
Oui, tout à fait. Je l'ai fréquenté. Oui, mais ne serait-ce que pour mes accouchements. Donc, je connais bien. D'ailleurs, on y mange des chocolatines.
Ah, voilà. Donc, on salue tout le personnel et puis on vous renvoie vraiment à tous les articles sur ce sujet qui est extrêmement sérieux. Et puis ça va.
C'est pas le seul endroit. C'est partout en France. Donc, le personnel soignant, on les a applaudis pendant quelques semaines.
Ça va pas suffire, j'ai l'impression.
Non.
Et un
un infirmier sur France Info déclarait mardi, on a environ 40% au CHU de Bordeaux, hein, 40% des médecins urgentistes qui sont sur le départ ou en arrêt de travail ou en lien avec des burn-out. Virginie Grimaldi, merci d'avoir mis en lumière ce sujet. Et maintenant, appelons le 15. Comme ça, Jamil Lechlac peut faire sa petite chronique.
Bonjour à tous, vous allez bien? J'ai rien entendu!
Ah non!
Eh non, je rigole, c'est pas Aymeric Lompré, c'est Jamil Lechlac, ça n'a rien à voir. Moi, je prends des douches. Eh les gars, c'est incroyable. Le Burkini, saison 5, épisode 8. Mais chaque été, ça revient, on dirait Interville. Chalalalala. Ça va, Guinex? Le maire de Grenoble a autorisé des femmes à se baigner en Burkini dans les piscines municipales. Et on parle que de ça. Mais on oublie qu'il a aussi autorisé le monokini. C'est génial. T'arrives à la pistoche, on dirait une boîte de province. Il y a deux salles, deux ambiances. D'un côté, Bzez à l'air, Disco Cérone, Super Nature. Et de l'autre, ambiance, Rai. Voilà, c'est ça la France qu'on aime. Les politiques, ils sont pas contents. Ils disent que c'est l'islamisme qui avance. Ça tombe bien, j'ai un voisin à moi, il est islamiste, mais pur sang. Camis, hein. Barbe, tache sur le front, Nike Air, le vrai, l'authentique. Je l'adore. Il est sympa, Sébastien. Ah oui, parce que c'est un converti, il s'appelle Sébastien, mais il veut qu'on l'appelle Abdul Wahid Shakur. Mais détends-toi, Seb. On commence donc à échanger. Dis-moi, Seb, quel est ton point de vue concernant le burkini sur le poids de la société actuelle? Et les sites haram. Voilà, donc toi, le débat d'idées, l'argumentation, tu t'en bats clairement les couilles. L'autre jour, il y a un journaliste qui a posé exactement la même question à Darmanin. Et il lui a répondu, et laissez être haram. Ah, mais comme quoi ils arrivent à se mettre d'accord sur les tenues des femmes. Bref, ce qui m'a rendu fou dans cette histoire, c'est la réaction des Burkinabés. Enfin, des femmes qui portent le burkini. Bouh, jeu de mots, calembour, ça va toujours, Jean Roucas. J'ai vu une vidéo après l'annonce du maire. Bon, elles étaient trop contentes. On aurait dit qu'elles avaient gagné la Coupe du Monde. On est les champions. Ah, bah la joie a été de courte durée, hein. Comme après un but hors jeu. Il y a Laurent Wauquiez, il est arrivé. Bah, c'est un peu l'arbitre de la région. Hein. Je demande l'assistance vidéo sur cette action. D'accord, très bien. Trop de joie, trop heureuse, elles ont l'air de kiffer. Ok, décision annulée. On coupe les subventions. Il leur a mis un contre-Kems. Ou comme dirait Georges Eddy, get back baby, c'est la réponse du berger à la bergère. Ouais, ça rappelle des souvenirs. Non, mais Wauquiez, il veut couper les subventions. Déjà que Grenoble, c'était pas Las Vegas. Voilà, ça va devenir Gotham City. Plus sérieusement, partout, c'est chiant d'être une meuf. Hein. Que ce soit sur la ligne 13 ou dans la tour TF1, c'est chiant d'être une meuf. Bah, vous êtes pas au courant. PPDA est accusé d'agression sexuelle, viol, clé de bras, la totale. Perso, je crois à la présomption d'innocence. Quand t'as une plaignante. Mais lui, 17, mais c'est beaucoup trop, frère. 17, c'est le nombre de livres vendus par la Marlène Schiappa. Bouh, bon, on est loin de Virginie Grimaldi. La réaction de PPDA, elle est incroyable. Oui, c'est la séduction à la française. J'adore faire des bisous dans le cou. J'aime bien le badinage. Bah, excuse-nous, Alex Vizorek. Il a même osé dire « De toute façon, si elle m'attaque, c'est pour faire le buzz. » Pardon Patrick, il y a quand même d'autres moyens pour faire le buzz. Tu fais de la télé-réalité, tu dessines une petite moustache à Eric Zemmour. Ça va, Charline? Ou pire, tu cries en direct sur France Inter. L'islam vaincra, Inch'Allah! Voilà! Là, tu crées le buzz, tu tournes en boucle sur CNews! Le pseudo-humoriste islamiste Jamel Le Flag prône la charia avec nos impôts, putain! Et ensuite, t'es complet à l'Apollo Théâtre. D'ailleurs, je joue demain à 21h30. Autant promo! Merci de m'avoir écouté, on se fend la poire.
Merci! Merci, Jamil Le Schlag. On peut vous revoir en vidéo et vous partager abondamment. Musique Akbar! Voilà. Indiale ne, Titre d'Oumou Sangaré, Wassouloudon sur la playlist France Inter, vous écoutez par Jupiter. Notre invitée est Virginie Grimaldi, eh oui, qui publie son 8e roman intitulé « Il nous restera ça » et paru aux éditions Fayard. Tout va bien Virginie ?
Oh oui, oui, je suis bien.
Attendez parce que malheureusement maintenant c'est Guillaume Meurice.
Ça va pas durer. Ça va pas durer. Il fait 50 degrés au Pakistan, une sécheresse historique s'annonce en France, la banquise fond comme jamais, les animaux disparaissent par paquets de sang et... Putain, il y a un burkini ! Il y a un burkini en régie ! J'ai vu passer un burkini. Vous avez vu ou pas? Bah évidemment, vous êtes complètement islamisé, vous avez pas vu. Ah non, c'est le reflet de Jamil dans la glace. Putain, est-ce que je disais? Bon, oui, on va tous crever. Les océans deviennent de plus en plus acides. La montée de leur niveau pourrait engendrer une réaction en chaîne. J'ai un doute. On dit le ou la première ministre? La première, je trouve ça est moche, moi. La première ministre, c'est moche. Bah évidemment, vous êtes des nazis, voilà, des féminazis. Qu'est-ce que je disais? Oui, on va tous crever, mais c'est pas perdu, je sais, parce que ce matin, je suis allé au sommet Change Now.
Ah.
Eh oui, déjà, j'ai un bel accent anglais, Change Now, c'est pour ça que j'y suis allé, c'était au Grand Palais Éphémère, parce que les solutions pour résoudre la catastrophe climatique, elles sont là. Écoutez comme elles sont là.
Eh bien, on conçoit et on produit et on installe des voiles de kite géantes qu'on installe sur des cargos pour réduire leurs émissions carbone.
C'est-à-dire qu'il y a des cargos qui sont remplis de trucs de merde et des problèmes qui sont tractés par un cerveau.
En même temps, est-ce que si maintenant, là tout de suite, on ne met pas de voiles de kite sur les cargos ils continuent à transporter des trucs de merde?
Effectivement, l'idée c'est de continuer à transporter des trucs de merde, mais en rajoutant une petite voile sur le cargo. C'est l'équivalent d'un petit sapin senteur des bois dans un 33 tonnes plein de mazout. Mais est-ce que c'est pas également vouloir soigner la tuberculose avec un doliprane?
Allez, on va dire oui.
On va dire oui un peu.
On va dire oui, mais est-ce qu'il vaut mieux... avoir mal et dire non mais moi je suis un bonhomme, j'ai mal, je m'en fous, je prends pas de Doliprane, plutôt que de dire bon allez on va quand même prendre la solution la plus raisonnable, c'est de prendre du Doliprane.
Mais du coup le Doliprane, est-ce que ça exonère pas de lutter quand même contre le vrai mal?
Ah si, ça exonère carrément de lutter contre le vrai mal.
Voilà, c'est bien ce qui me semblait, hein. C'est bien ce qui me semblait, on est vraiment sur un actionnaire de chez Total qui pisse sous la douche, hein. C'est vraiment le même principe. D'ailleurs, qui est actionnaire et communique sur ce projet de voile pour cargo? La société Airbus, qui est quand même plus connue pour faire la une de Kérosène Passion.
Ils sont actionnaires à hauteur de 11%.
Puis mais est-ce que c'est pas ça le green?
Le greenwashing, typiquement, c'est... Non, je peux pas vous dire, parce que sinon je vais me faire
taper. Ouais, je veux pas qu'elle se fasse taper à cause de moi. Non. Pour l'instant, c'est le soleil qui cogne. Mais ne vous en faites pas, c'est Michelin qui fabrique des voiles pour les bateaux.
Michelin, on a toujours eu une tradition d'innovation.
Mais est-ce que Michelin, c'est pas surtout des centaines de milliers de pneus disséminés partout dans le monde?
Alors, Michelin, effectivement, aujourd'hui, ce qui nous finance, c'est encore le pneumatique. Mais justement, on essaye de se diversifier avec des solutions, cette fois complètement orientées sur le vert.
Mais alors, est-ce que c'est pas ça le greenwashing, précisément?
Non.
Non, pas du tout. Voilà. Non, parce que moi, je croyais, vu que pendant ce temps-là, la biodiversité se délite, il y a des tornades. Vous avez vu le nouvel iPhone qui va sortir? Il est pas trop stylé, sans déconner. On peut le déverrouiller avec ses orteils. Vous avez vu le truc? Ah, c'est fou. Qu'est-ce que je disais? Vous vous en foutez, vous vivez dans les yourtes, de toute façon. Oui, dans le sujet. Voilà, oui, alors justement, en parlant de téléphone, vous allez adorer l'innovation proposée en partenariat avec Orange.
C'est une pochette, on glisse son téléphone dedans. Elle détecte que le téléphone est dedans et verrouillé. Et l'idée, c'est de motiver et d'encourager un petit peu à lâcher son téléphone.
Est-ce que c'est pas un peu l'équivalent d'éteindre son téléphone?
Mais non, parce que là, vraiment, on a, c'est qu'il y a une distanciation physique, en fait. On voit plus le téléphone.
Mais là, on voit la pochette.
On sait qu'il y a le téléphone dedans, mais si on veut prendre le téléphone, on doit ouvrir le zip.
C'est comme éteindre son téléphone, mais avec un objet en plus.
Non.
Je suis chiant, hein.
Je suis un peu chiant. Je sais que je suis un peu chiant. Donc là, on a une pochette qu'on doit acheter et dans laquelle on met son téléphone. Comme ça, on le voit plus. Comme ça, on n'est plus tenté de prendre son téléphone. C'est pas mal, hein? Et c'est Orange, c'est un partenariat avec Orange. C'est comme un dealer de crack qui te vend ta dose dans une pochette. Ça, tu la vois pas trop. Voilà, c'est pas. Voilà. Est-ce que Orange se foutrait pas un peu de notre gueule?
En fait, c'est une image de marque, effectivement, de se dire, effectivement, Orange, on vend des téléphones. Ils vendent des téléphones et il y a des solutions qui existent pour mieux consommer.
Mais en pour fait, moins consommer.
C'est pas moins en soi. C'est moins consommer. Si on en passe moins, c'est moins. Mais c'est mieux.
Ouais, c'est pas clair. C'est surtout pas très clair. Par contre, ce qui est clair, c'est comment le marché s'adapte. Vous avez vu, il s'adapte en s'habillant en vert. Ça, c'est assez fascinant. C'est vraiment le principe de Michel Fourniret qui se déguise en Père Noël. J'essaie de faire des analogies, hein, qui parlent aux plus jeunes d'entre nous, bien sûr. Allez, on termine avec un challenge. Parce qu'il y avait un grand challenge. Des jetons qui étaient destinés à dessiner une grande fresque au milieu du salon en échange d'un engagement.
On baisse d'un degré la température de sa maison.
Ouais.
On s'engage à réduire à partir d'aujourd'hui sa consommation de viande rouge.
Okay.
On va acheter de manière peut-être plus locale auprès d'entreprises plus éco-responsables. Et enfin, de faire moins d'usage de plastique à usage unique.
Et est-ce qu'il y a un jeton foutre en l'air le capitalisme?
Alors on prend les quatre, on les jette en l'air et on croise les doigts.
Voilà, on va faire ça. On va plutôt croiser les doigts. Voilà, parce que pour l'instant, ripolliner en verre, ça risque de pas suffire à nous sortir de... Attendez, Mbappé, il va à Madrid ou pas, finalement? Ah, c'est pas ça! Ah, là. Et personne qui s'intéresse au vrai enjeu ici. On mérite tous de mourir.
Ouais, Guillaume Meurice dans ses œuvres. Merci beaucoup, Guillaume. Virginie Grimaldi est en notre compagnie. Juliette, vous avez un thème à lui soumettre.
Oui, c'est une histoire de notre temps. C'est l'histoire d'une mannequin grande taille, c'est-à-dire qu'elle fait du 40. Mon Dieu, que les gens de la mode sont facétieux. À qui on demande de porter du rembourrage sous les vêtements qu'elle pose, avec lesquels elle pose, pour qu'elle paraisse plus grosse tout en gardant un cou et un visage maigre. Un poil lacé, la mannequin poste sur internet une petite vidéo pour expliquer l'escroquerie et dénoncer l'idéalisation de corps irréalistes, voire impossibles. Impossible, mais si, ça va, c'est simple.
Vous êtes les plus belles candidates de toute la région, triées sur le parquet. Votre but, le titre de Miss Noël 2020. Léo, on s'emballe pas les filles. Le chemin est encore long pour atteindre le poids idéal.
Et c'est combien le poids idéal?
C'est le poids des bras multiplié par 4 plus 2 fémurs.
C'était un extrait du film Les Tuches 4 d'Olivier Barrault et on a entendu Sarah Stern. C'est un sujet que vous nous avez proposé également, Virginie, les magazines féminins et le marronnier qui se cache de l'être, le body summer. Est-ce que vous étiez au courant déjà de cette filouterie précisément du rembourrage?
Oui, j'en avais entendu parler. Tout comme j'ai entendu parler, enfin j'ai vu des photos, je ne sais plus quel site c'était, qui vendait des collants grande taille avec une mannequin très mince et donc elle tenait les collants avec les bras comme ça. Elle était dans le collant. Elle était entièrement dans le collant. Voilà. Et elle les écartait avec ses bras comme ça pour montrer à quel point ils étaient grands. Voilà. Donc j'avais vu.
Elle peut dormir dedans comme sac de couchage. C'est ça le truc.
Mais c'est fou qu'en 2022, on en soit encore là.
C'est exactement la même chose que Guillaume nous parlait du greenwashing. Oui. En fait, là, c'est le body positive washing.
Oui.
C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils ont senti qu'il était temps que les femmes se sentent représentées portée par d'autres corps.
Il tourne les choses différemment, mais en fait, voilà, il y a rien qui change. On voit pas de poils, on voit pas de rides, on voit pas de cheveux blancs, on voit pas de graisse. J'ai une petite anecdote, j'ai le temps.
Oui,
j'ai fait une séance photo l'année dernière, et quand j'ai reçu les photos, j'ai fait waouh, et canon. Et en fait, après, j'ai vu que c'était pas moi. J'avais 20 kilos de moins, 20 ans de moins, et c'était super vexant. Donc j'ai demandé, c'était pas moi. Mais j'étais canon, j'ai failli dire « Ah ben ouais, on met ces photos ». Puis je me suis dit « Non, mais quelle image ça renvoie ?» Et je me bats contre ça. J'ai pas envie que les gamines qui ont envie de devenir écrivaines se disent « Bah, il faut être canon, faut pas avoir de graisse, enfin... » et puis ce sont des corps qui n'existent pas.
Mais vous êtes canon en vrai.
Ouais, c'est gentil.
Oui. Mais oui, c'est vrai.
J'ai 20 kilos de plus que sur les photos.
Bah, on s'en fout. Ouais.
Il a fallu que je bataille. Il a fallu. Non, mais, ah ouais, mais je n'ai rien demandé. Ouais. Pendant la séance photo, la photographe me disait je t'enlèverai un peu le ventre. Et je lui disais non, mais ça va. Ouais. Mais c'est vexant. Et je lui ai dit, vous imaginez l'image que vous me renvoyez déjà à moi et qu'on va renvoyer à toutes les femmes. Donc laissez les poils, les rides, et donc sur les photos j'ai mon double menton, j'ai pas 3 tonnes de cheveux et j'ai mon ventre, et c'est très bien comme ça.
Il y a un truc que j'ai remarqué dans votre roman, il nous restera ça. Vous évitez les descriptions physiques hyper classiques et chiantes des personnages. Elle était blonde avec un sourire facétieux, qui est ma préférée personnellement. C'est délibéré.
Oui, c'est délibéré. Oui. Je tiens à ne pas décrire les personnages. Déjà parce que j'ai envie que le lecteur s'approprie un petit peu l'image qu'il a envie de donner à chaque personnage. Et parce que je crois pas que le physique soit très important.
Et on n'a pas parlé de vos yeux qui sont magnifiques.
Oh, merci.
Mais bien sûr.
Surtout un.
Oui.
Mais je ne dirais pas lequel.
Celui de gauche.
Léo Carman est parmi nous aussi. Léo, qu'avez-vous à nous raconter aujourd'hui?
Ambiance. Si ces quelques notes vous disent encore rien, c'est que vous n'êtes pas encore tombé dans Severance, la nouvelle série dystopique d'Apple TV créée par Dan Erickson et dont la plupart des épisodes ont été réalisés par Ben Stiller. Et pourtant, rien de bien drôle au démarrage. Le pilote s'ouvre sur une femme allongée inconsciente sur une table de réunion et réveillée par une voix étrange sortant d'un haut-parleur. Comme nous, spectateurs, elle ne sait pas où elle se trouve. Comme nous, elle trouve la situation un peu bizarre. Mais plus intriguant, comme nous, elle ne sait pas qui elle est. I don't know, c'est en tout cas ce qu'elle répond à quasiment toutes les questions du test d'aptitude que lui fait passer cette voix.
Okay, what's happening?
Unknown. So that's unknown, unknown, Delaware, unknown, unknown.
What the hell did you do to me?
That's a perfect score.
L'homme qui vient d'entrer dans la pièce et qui semble satisfait du fait qu'elle ne se souvienne de rien, c'est Mark. Il lui explique qu'elle a été dissociée. À sa demande, on lui a implanté une puce révolutionnaire dans le cerveau qui permet de séparer concrètement sa vie professionnelle de sa vie personnelle. En gros, dorénavant, l'accès à ses souvenirs est déterminé par l'endroit où elle se trouve. Quand elle est ici, au travail, elle oublie totalement sa vie privée, mais quand elle sort du bâtiment en fin de journée, elle retrouve ses souvenirs personnels, mais oublie totalement ce qui se passe au boulot. Ce système révolutionnaire a été inventé par Lumen Industries, l'entreprise dans laquelle il travaille et dont l'architecture ressemble étrangement au premier Macintosh. Et s'il semble faire largement débat dans cette Amérique reculée où se déroule cette histoire, il est un échappatoire évident pour les employés qui ont décidé de l'adopter, comme Marc, qui préfère comme ça s'oublier au travail pour ne plus penser, ne serait-ce que 9 heures par jour, à la mort de sa femme.
So I'll never leave here. You'll leave at 5. Well, actually, they stagger exits, so 5:15. But it won't feel like it, not to this version of you anyway.
Do you have a family?
You'll never know.
I have no choice.
Well, every time you find yourself here, it's because you chose to come back.
Et c'est là tout le génie du concept de Severance. Personne n'est enfermé, personne n'est forcé à rien. Ces autres soi du travail sont là parce que leur Audi, comme ils les appellent, leur version de l'extérieur, choisissent tous les matins de retourner au travail. Tout l'enjeu, c'est donc, quand les ennuis commencent, d'essayer par tous les moyens de se contacter soi-même. Dès les premières images, on le sent, Severance est une œuvre totale. Croisement atypique d'un Playtime de Jacques Tati et d'un Bienvenue à Gattaca d'Andrew Niccol, elle réunit entre autres Adam Scott, John Turturro, Patricia Arquette, Christopher Walken. Mais c'est surtout une histoire totalement originale. Dan Erickson, dont annoncé la toute première série, a porté cette idée pendant plus de 10 ans sans rien pouvoir développer d'autre. Il raconte d'ailleurs dans une interview qu'il livrait des légumes le jour où Apple lui a annoncé vouloir produire sa série. À force de digérer son projet, de l'affiner au fil des années, lui qui n'avait jamais mis un pied dans l'industrie a fini par convaincre, et ça se ressent. Il est rare de voir se développer au fil de 9 épisodes un récit qui parvienne à ce point à être à la hauteur de son high concept. Car oui, au-delà de l'intrigue plus classique, du grain de sable dans les rouages, de comment toute cette entreprise si rodée, glaciale, va petit à petit se déliter, Severance n'oublie jamais l'intime. Jusqu'où peut-on s'oublier dans le travail? Quelle place et quelle importance doit-il encore avoir dans nos vies? Et surtout, à l'heure où les multinationales montrent leurs limites morales et systémiques, jusqu'où peut-on séparer nos convictions et notre gagne-pain? Bouleversante, passionnante, se laissant progressivement apprivoiser dans son rythme et sa grammaire, Severance est un chef-d'œuvre de série qui n'a pas fini de nous embarquer puisque ça y est, Apple a officiellement annoncé une deuxième saison. Mais rassurez-vous, Dan Erickson et son équipe ne vont pas mettre 10 ans à la sortir. Apparemment, quand ils se mettent à travailler, c'est pendant 9 heures d'affilée et en oubliant tout le reste.
Léo Carman, merci pour ce conseil. Ça a l'air bien alléchant.
Ah, c'est génial. Ouais,
merci Léo. Virginie Grimaldi avec nous. Et ce dernier thème, le Japon offre une solution aux auteurs qui procrastinent. Le café des manuscrits en cours d'écriture. Il accueille les écrivains qui informent le personnel du café du nombre de mots qu'ils doivent rédiger et dans quel délai. Et un responsable passe parmi les rangs pour voir si le travail avance. Au choix, selon une méthode soft ou en vous bousculant si c'est la seule manière de faire avancer l'auteur.
Vous n'allez pas vous en tirer comme ça, monsieur Cirellini, c'est moi qui vous le dis.
Tu crois que tu vas m'arrêter?
Ça n'est pas moi, c'est votre conscience qui vous arrêtera. On n'échappe pas à sa conscience. Elle va tellement vous tarauder la nuit, le jour, que vous ne pourrez plus vivre normalement.
Alléluia.
Elle vous poursuivra jusqu'à la Saint-Glinglin. Parfaitement. L'œil était dans la tombe et regardez ça.
Clavier Depardieu dans Les Anges Gardiens, film de Jean-Marie Poiré. Voilà, c'est un sujet de niche. Hein. Ça se passe au Japon, mais ça a le mérite d'exister. Il vous arrive de procrastiner dans l'écriture, Virginie Grimaldi?
Il m'arrive de procrastiner dans la vie. Ah, globalement, oui.
Mais alors, est-ce que vous séparez la vie du travail, comme disait maman?
Pas tellement.
Non, non. Donc non, vous procrastinez aussi dans l'écriture?
Oui, mais en revanche, je pense que c'est mon éditrice qui a vendu le concept au Japon. Et heureusement qu'elle est là.
Ah oui, mais oui, comment est-ce qu'elle vous stimule ou vous surveille?
Elle me fouette.
Oui. Très bien.
Non, elle m'encourage parce que c'est souvent des pertes de confiance qui font que je ralentis et que je n'écris plus. Ouais. Donc je lui fais lire et puis elle s'est trouvé les mots pour me rebooster.
Et comment vous écrivez? Est-ce que vous avez tant d'heures par jour, matin, le soir? C'est bordélique?
Ouais, complètement.
Ouais,
okay. Mais il y a un lieu.
Il y a un lieu,
Il y a un lieu, oui.
Ah ouais, quand même.
Au Japon. Ouais.
Bilan carbone pas dingue.
Non, j'ai une cabane dans mon jardin, où je vois des chevreuils et des escargots, mais non, des écureuils. Je suis isolée, mes enfants viennent gratter à la porte de temps en temps, mais...
Et vous procrastinez moins depuis ou pas?
Pas du tout.
Ça change rien. Oui, d'accord. Donc vous écrivez seul. Est-ce que écrire parmi d'autres, ça vous est déjà arrivé pour vous stimuler, comme quand on est étudiant, il arrive qu'on aille à la bibliothèque pour se sentir moins seul?
Oui, mais j'allais à la cafette, moi, étudiante. Et non, j'ai pas.
Et là pas.
Non, j'ai pas. Je peux pas écrire avec du bruit, avec de l'animation autour. J'ai vraiment besoin d'être concentrée. Et même comme ça, c'est compliqué.
Ouais. Enfin, vous écrivez au milieu des arbres et des animaux. Oui. Finalement, vous êtes un peu accompagné.
Oui, c'est vrai.
Ouais. D'après les clichés, il n'y a rien de très étonnant à ce que cette méthode vienne du Japon. Je ne sais pas si vous avez déjà voyagé là-bas. Vous
non,
vous
jamais.
Jamais.
Non. Non, mais en effet, oui, ils sont assez carrés et la productivité est importante là-bas.
Ouais. Et vous pourriez travailler sous la contrainte? Vous pourriez aller dans ce café,
justement.
La contrainte, ça vous bloquerait?
Non, oui, j'ai refusé des propositions de... Quand c'est imposé, c'est compliqué pour moi, c'est instinctif, l'écriture.
Virginie Grimaldi, Juliette Arnaud a préparé pour vous, sous la contrainte également, de notre rédacteur en chef, Ramzi Assadi, questionnaire du par J.P. Proust.
Sur l'échelle qui va de 0 à 10, des gens qui ont un patronyme d'une famille riche et célèbre, mais qui malheureusement n'ont pas de lien de parenté avec cette famille, 10 étant moi, coucou Bernard Arnault, 0 étant Léa Seydoux, à combien vous situez? Vous n'habitez pas au Palais Royal sur le Rocher, on est d'accord?
Non.
Alors à combien vous situez?
Il y en a, mais à 10.
Ah oui, c'est ça. Largement. Votre roman, le titre est très romantique, il nous restera
ça.
La citation la plus romantique du cinéma à vos yeux et à vos oreilles, c'est...
We'll always have Paris.
Il nous restera toujours Paris dans Casablanca, ou...
T'as de beaux yeux, tu sais.
Jean Gabin dans Quai des Brumes, ou...
Alors ? On n'attend pas Patrick.
Camping et Patrick Chirac.
Quai des Brumes.
Est-ce que l'humour bordelais, c'est plus Pierre Palmade, Cantelou ou Julien Courbet ? Ne réfléchissez pas.
Il est humoriste, Courbet. Plutôt Palmade.
Plutôt Palmade. Maintenant, c'est super, on peut faire Paris-Bordeaux en 2 heures, c'est super court.
C'est gavé bien.
Mais il va falloir les faire avec, au choix, Éric Zemmour et ses opinions féministes, Marine Le Pen et ses opinions féministes, ou Vladimir Poutine et ses opinions féministes.
Mais je vais le faire sous le train.
C'est très dangereux. Il paraît que vous adorez Phoebe, le personnage de Phoebe dans Friends, et Phoebe dit que pour arrêter de fumer, il faut danser dans la bruyère, puis se baigner dans la sueur de 6 beaux jeunes hommes. Est-ce que c'est vrai? C'est pas pour moi, c'est pour une amie.
Oui, ça marche bien, il faut essayer, Juliette.
Je vais m'y employer dès ce week-end. Vous adorez...
Dans le programme, j'ai l'impression.
Oui, j'ai un programme, tout à fait. Vous adorez Céline Dion. Quel est le plus gros mensonge jamais proféré par Céline Dion? On ne change pas. Ou je me changerai en or pour que tu m'aimes encore, c'est hyper dangereux. Ou I know my heart will go on, mais pas celui de DiCaprio, vu qu'il est mort de froid.
Non, on ne change pas.
On est d'accord,
oui, on est
n'importe
d'accord,
quoi.
C'est un gros mytho.
Vous pouvez supprimer un élément de Bordeaux. Les cannelés, les pulls sur les épaules ou les Parisiens qui viennent vivre à Bordeaux.
Ah, les pulls sur les épaules, mais on ne fait pas ça chez nous.
Si, vous faites ça.
Hop, hop, hop. Quand vous allez autour du bassin d'Arcachon le week-end, on vous voit. Hein.
Allez, la dernière. Vous pouvez avoir un pouvoir de super-héroïne. Vous pouvez avoir la force de Hulk, le lasso de la vérité de Wonder Woman ou l'argent d'Iron Man. Que choisissez-vous?
Le lasso de la vérité.
Virginie Grimaldi, merci infiniment d'avoir passé cette heure avec nous. C'était un plaisir. Je rappelle le titre, votre roman, Il nous restera ça, paru aux éditions Fayard. Et vous me confiez tout à l'heure que vous étiez incapable d'écrire entre 17h et 18h, parce que bien sûr...
Je vous écoute.
Voilà, là, c'est trop beau. Merci Virginie Grimaldi. Les amis, merci aussi, c'était un plaisir. Je vous dis à demain pour l'émission du vendredi, le jour du poisson.
C'est quoi comme poisson? Du dauphin.